Donc je commence à penser à ce film quand mon grand-père décède et ma grand-mère, à 80 ans, se met à faire de la peinture. Donc je commence à chercher des films sur ce thème et je me rends compte qu'il y a très peu de films avec des protagonistes âgés. Ou alors associés à la nostalgie, à la vie qui est passée et je voulais faire quelque chose de différent. Oui, quand on commence à faire des recherches sur l'enchantement, la découverte, les films qui vont traiter de ces thèmes-là ont des personnages jeunes et pas des personnages âgés. Quand je commence à faire de la recherche sur le type de genre, sur la découverte, l'enchantement, bah, on trouve des films sur la jeunesse et jamais des corps âgés. Et un autre genre que j'ai trouvé sur ce thème, c'est de réunir tout ça. C'est la question, bah, pourquoi pas, qui se rébelle contre qui sont dans une dystopie, pourquoi toujours des jeunes. Et donc un autre genre qui apparaît, c'est le road movie, dans ce cas-là c'est plutôt le boat movie. Donc j'ai choisi aussi ce genre pour montrer le personnage âgé en état de découverte. L'outil que j'ai utilisé pour réunir tout ça, c'est le soundtrack, c'est la musique, la danse, qui est comme une invitation au spectateur pour rentrer dans cette aventure. Et donc c'est pour ça que ça commence avec une danse.
Est-ce qu'on peut demander pourquoi un personnage de femme ? Des hommes. Pourquoi une femme? Pourquoi deux femmes?
Tout d'abord parce que ce film vient avec cette expérience avec ma grand-mère. Je ne sais pas en France, mais au Brésil, la tâche de s'occuper des autres et de prendre soin de l'autre est souvent une tâche où les femmes s'occupent et donc les femmes, elles peuvent compter sur d'autres femmes, et c'est pour ça que je fais ce choix. Et c'est l'héroïne du film, c'est seulement quand elle est avec ce personnage plus âgé qu'elle, qu'elle va finalement se sentir en confiance pour vivre autre chose. Elle avait fait d'autres rencontres, mais elle ne s'est jamais sentie en confiance. Et c'est seulement avec cette autre femme et plus âgée qu'elle pourra se retrouver et se sentir bien.
J'étais vachement intéressé par le contexte finalement dystopique et je me demandais, en tout cas c'était mon interprétation, est-ce que c'était la bonne façon de voir les choses, mais dans un système capitaliste où il faut de la productivité, où il faut que les gens travaillent. Je voyais, par exemple, la fille de la protagoniste, que c'était, elle lui dit dans les interactions, que c'était compliqué déjà de sortir du travail pour l'amener à la mairie, etc. Comme si, en fait, la société allait dans un sens où les personnes âgées pourraient devenir un poids pour les personnes qui travaillent. Et c'est comme ça que j'interprétais la chose, ce qui est hyper triste. Et j'ai l'impression, moi, de voir une société qui va vers ça, qu'en fait, c'est dystopique pour le moment, mais peut-être que plus tard, en effet, ça deviendra. Et je trouvais ça très intéressant d'être toujours un petit peu, je me suis toujours senti dans le flou. Est-ce que c'est une colonie de vacances pour les personnes âgées? Ou est-ce que c'est en fait une prison, enfin un monde pour isoler et empêcher de perturber les enfants de ces personnes âgées pour qu'ils se focusent sur le travail, etc. Voilà, c'était mon ressenti. Je ne sais pas si c'était la bonne façon de voir les choses, mais voilà.
Donc oui, en effet, le contexte cellulaire, un contexte de productivité où le corps âgé n'est plus assez productif. Je n'ai pas voulu faire quelque chose de caricatural et de mettre des voitures volantes en futur caricaturé, mais j'ai voulu justement mettre quelque chose de local. Et donc j'ai créé ce,
ce Hamas vieux, ce remorqueur de vieux, qui ressemble un peu à la fourrière des chiens errants, pour créer quelque chose de local et dans cet univers-là. Ce que j'ai trouvé intéressant dans l'arc narratif, dans la trajectoire du personnage, c'était au départ construire un personnage qui croyait dans les systèmes, qui était quelqu'un de plutôt conservateur et qui va évoluer. Et donc ce qui est beau dans tout ça, c'est que ce personnage soit prête à découvrir autre chose, d'autres choses, découvrir des désirs, faire de nouvelles amitiés et s'épanouir. Est-ce qu'il a répondu à la question? En fait, vous avez un doute si, si c'était une prison, une colonie de... Oui, Élie. Oui. Ok. Écoutez, dans un contexte comme celui du Brésil, imaginez un endroit comme ça, ça pourrait pas être une bonne chose. Donc c'est plutôt une prison. En fait, il y a quand même une idéologie très violente derrière tout ça, parce qu'une personne âgée, isolée de sa famille, elle ne pourra pas... profiter et on voit par exemple dans le passage où la dame met la couche et que quelqu'un vient regarder, qui viole son intimité, donc on voit quand même que la violence est déjà là. Mais on a fait le choix justement de montrer ce qu'est cette colonie du point de vue de la propagande du gouvernement pour que le spectateur imagine ça, projette, et justement, le film est fait à partir de là, en fait, sans trop en dire.
J'ai aussi beaucoup aimé ce film. J'ai été particulièrement sensible à la beauté des images, les fleuves immenses, les couchers de soleil, l'habitat sur l'eau, les villages et les petites villes près de l'eau. Il y a un spectacle somptueux que vous nous avez bien mis en valeur et que vous nous avez fait aimer. Par contre, il y a quelque chose qui me surprend, voire qui me choque dans ce film et dans les réponses que vous avez faites en justifiant pourquoi vous avez choisi deux femmes pour incarner votre thèse. Je ne sais pas au Brésil, mais en France, il existe aussi de vieux messieurs qui aiment la beauté, qui aiment la tranquillité, qui, tant qu'ils ont la santé, qui ont envie que ça dure. Et c'est pas comme ça au Brésil. Il n'y a pas de vieux messieurs qui aiment les belles choses, qui aiment passer du temps, et voilà.
Je suis beaucoup basée, en fait, sur ce que j'entends dire les femmes au Brésil, et du fait que les hommes n'occupent pas souvent cette place du care, de s'occuper des autres, et c'est pour ça que j'ai voulu travailler sur cette idée-là. De l'attention à l'autre. Bon, pour lui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent chez les femmes. Je pense aussi qu'il y a une différence par rapport à la France, parce qu'en France, c'est différent peut-être de vieillir en France. En France, il y a beaucoup de cinéphiles, beaucoup de personnes âgées qui vont au cinéma. Et au Brésil, les personnes âgées sortent très très peu. Et donc, je pense que la perspective de vieillir au Brésil est bien différente.
J'aimerais savoir quel est le symbole par rapport à l'escargot aux larmes bleues. Mm-hmm. Et puis aussi, la critique par rapport à la religion catholique. Gabriella, elle distribue des bibles, mais elle n'y croit absolument pas. Elle fait de l'argent sur une croyance du peuple, et j'aimerais qu'il puisse nous expliquer quelle est la critique cachée peut-être qu'il y a derrière.
Oui, l'escargot, il est lent dans le mouvement, mais infini en possibilité, donc la lenteur et paradoxalement avec beaucoup de possibilités. Je regrette de vous l'annoncer, mais il n'existe pas en vérité. Mais il y en a d'autres animaux qui peuvent servir à des rituels, mais par respect aux rituels des peuples amérindiens et pour préserver leur culture, j'ai inventé celui-là pour qu'ils puissent garder leur propre rituel. Donc oui, par rapport aux références à la religion, en fait, le Brésil est un pays qui est en train de connaître un changement majeur. Aujourd'hui, un tiers du Congrès national est composé par des évangélistes. Et je voulais en parler, je voulais le montrer dans ce film. Je voulais que ce personnage qui fait des choses qui n'en sont pas bien, parce que bon, elle trompe les gens, mais je voulais que ce personnage lui apporte quelque chose, qu'elle lui montre la rébellion, qu'elle lui montre le massage, les plaisirs, mais tout en faisant des choses qui n'étaient pas très bien.
Ton histoire, c'est à quel moment de l'histoire du Brésil? C'est maintenant, c'est l'histoire que tu as tu as essayé de monter pour ton film, mais est-ce que c'est actuellement, par exemple, les pays, les gouvernements, ils aident encore, ils soignent cette façon les parties anciennes de la population? Est-ce que c'est une histoire pour toi ou c'est pour nous aussi qu'on puisse suivre? J'ai dit, est-ce que ton histoire, c'est maintenant, actuellement, que ça se passe, ou est-ce que c'est pour arranger l'histoire pour pouvoir faire ton film et des choses comme ça? Est-ce qu'actuellement, l'État fait la même chose, il essaie de trouver les lieux? Il est compliqué la vie.
Il a dit que ce film est né d'un sentiment qu'il a par rapport au traitement des personnes âgées. Cependant, c'est une fiction. Il n'y a rien dans l'État brésilien qui fait que les personnes âgées soient persécutées. Mais pour moi, plus important que ça soit réel ou pas, c'est la possibilité que ça soit réel et l'état de tension où on peut se mettre en pensant que ça peut être réel.
Comment avez-vous trouvé les deux femmes?
Alors, c'est une excellente question, parce que j'ai commencé à écrire le film sans penser à des comédiennes. J'écrivais le scénario. Quand je commençais à chercher, j'ai eu beaucoup de mal à trouver, parce que l'industrie cinématographique au Brésil fait une pression esthétique énorme et on fait tout justement pour cacher l'âge des comédiennes. Donc elles font toutes des procédures esthétiques pour gommer l'âge. Et moi, je voulais des personnes âgées. Donc en cherchant, j'ai finalement trouvé... Pas dans le cinéma ou pas parmi les comédiennes qui jouent dans le cinéma ou dans la télévision, mais au théâtre, j'ai trouvé Denise Weinberg qui est une femme qui est fière de vieillir et elle est fière des séries aussi. Et l'autre comédienne, j'ai réussi à la trouver à Cuba, à Havane. Et donc, ça a été une très belle expérience parce qu'elle est venue de la Havane en Amazonie et elle est arrivée directement en Amazonie. Elle a appris à conduire le bateau vraiment en Amazonie. Quand on a commencé les répétitions et qu'on a vu ces deux femmes ensemble et ces deux forteresses, on a tout de suite vu que ça allait marcher. Oui, je voulais vous féliciter pour ce film Et en fait, la colonie, c'est aussi la retraite, la question de la retraite des personnes âgées au Brésil, parce que au Brésil, la retraite est aussi vraiment une prison, parce qu'on gagne très peu et on n'a aucune possibilité de faire quelque chose. Et les personnes âgées qui ont besoin de continuer à travailler, c'est un marché, le marché du travail pour les personnes âgées, c'est très compliqué. Et bon, après, j'ai énormément aimé ces deux femmes subversives qui vont contre tout ça. Oui, en fait, les deux viennent de régions proches du Brésil, donc ils saluent la voisine et ils disent que le commentaire est auto-explicatif et il dit déjà tout. Donc bonsoir Gabrielle, bravo pour les films. Bon, moi je suis brésilienne aussi, je suis de l'état de l'Acre, en Amazonie aussi. Et en tant qu'amazonienne, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, pourquoi avez-vous décidé de tourner ce film en Amazonie? Pourquoi le situer en Amazonie? Pourquoi ce choix? Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'était de regarder l'Amazonie avec un regard différent, parce que quand on regarde l'Amazonie, c'est soit avec l'idéal de la préservation, soit pour dénoncer la déforestation. Et on parle aussi beaucoup de l'Amazonie par l'exploration sexuelle, même des mineurs. Et moi, je voulais montrer tout ça, mais décoller de cette réalité avec un regard plutôt fantastique, dystopique, et montrer ça, mais justement décoller de cette réalité. Et dans un film sur la productivité, c'est pour ça que je commence le film avec l'usine de crocodiles et la transformation de la viande pour déjà montrer ça. C'est un animal qu'on associe à la forêt vierge et là, donc il apparaît dans l'usine, avec cette clé de la productivité. Et en même temps, ce fleuve avec ses courbes très sinueuses, c'est un endroit pour se perdre, mais aussi pour se retrouver à nouveau. Et surtout, je voulais garder de la place pour l'imagination. Et même si c'est un film dystopique, l'escargot de la bave bleue, finalement, il représente l'utopie.
Oui, bonsoir. Je voulais juste vous remercier pour les films. Étant que femme plutôt âgée, une femme qui avance en âge, ça me donne vraiment de l'espoir. Que Dieu a un chemin à parcourir. Je vais essayer de résumer un peu, c'est ce qu'elle a dit. En gros, que oui, que c'est vrai que c'est les femmes qui sont celles qui vont prendre soin des autres. Et dans les films, elle a gardé un peu un sentiment amer, d'amertume, par le fait que la fille, c'est celle qui contraigne, c'est ce que la mère a envie de faire. Et après, que pour les hommes qui restent un peu entre deux, au milieu, sans vraiment faire grand-chose. Et puis, que dans tous les cas, elle est contente du travail, du film, et c'est un très bon film. C'est ce que je pourrais te dire de tout ce qu'elle a dit.
J'ai voulu montrer ce réseau de femmes. Donc la fille, la mère, même si la fille est contente de se débarrasser, d'avoir l'argent, il y avait un réseau de femmes. Oui, l'homme le personnage masculin, le premier personnage masculin qu'elle va croiser dans l'histoire du film, est l'homme du bateau. Et en fait, il va contre tous les stéréotypes de l'homme errant, camionneur ou conducteur de bateau, parce que quand il va essayer l'escargot de la bave bleue, il va être complètement fissuré, il va se rendre compte qu'il va retourner à son amour, qu'il est un homme profondément amoureux, donc il rompt avec cette idée de l'homme qui veut la liberté, le camionneur qui part sans... qui veut sa liberté, toujours être en errance. Donc lui, il fait les chemins inverses, il se rend compte qu'il était amoureux, il veut retourner à la maison, même si sa femme l'avait trompé. Donc, l'autre homme qu'elle croise est celui qui a le vice du jeu, et elle va le laisser. Et après, la prochaine personnage est cette femme complètement libre, qui est un être presque mythologique, qui va complètement la transformer.
Bonsoir, je voulais d'abord vous remercier pour ce beau film. Vous m'avez fait voyager. Et ma question, c'est par rapport à ces deux femmes. Ces deux femmes sont des femmes qui sont seules, sûrement des veuves ou pas. Et est-ce qu'au Brésil, le fait d'être une femme veuve, elles retrouvent leur liberté? Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ces deux femmes? C'est une forme de liberté quand on devient une femme seule, autonome. On n'est plus soumise à l'homme. Est-ce que dans la vie brésilienne, du couple, est-ce que c'est ce qui se passe actuellement ou avant, ou est-ce que ça évolue?
Oui, en fait, non, Thérèse, dans les scénarios, elle n'est pas veuve, elle est divorcée, et l'autre femme, elle se dit un animal libre, un animal en liberté, et... c'est elle qui va montrer cette liberté à Thérèse.
Bonsoir à Gabrielle, je suis aussi brésilienne. Il y a beaucoup de brésiliennes ce soir, beaucoup de femmes brésiliennes présentes dans la salle. Donc ça, c'est déjà une belle victoire pour ce film. Et j'aurais voulu poser une question sur l'Amazon parce que... mais bon, je laisse tomber parce que vous avez déjà parlé de ça. Je suis de Recife comme vous. Et je voudrais vous féliciter parce que ce film est vraiment très beau et j'ai passé un très bon moment. Et on a eu la chance de voir l'Agence Secret il n'y a pas très longtemps. Donc, en tant que Brésilien, on est très heureux de voir des films brésiliens en France. Et je voudrais que vous parliez un petit peu de cette réalité du cinéma brésilien. Pardon, je suis un peu émue. Parler de ce qui s'est passé avec Bolsonaro, notamment. Et sur le cinéma et tout ce que vous avez souffert pendant cette période.
D'abord, salutations à l'autre Recifeense. Et quand j'ai fini mes études de cinéma, mon premier travail a été de former des cinéastes amérindiens pour faire du cinéma. J'ai passé 3 mois et je garde 3 mois dans la région de Rio Negro, donc dans le haut du fleuve noir. Et je garde une idée merveilleuse de cette région. Donc quand j'ai commencé à écrire le film, ces images me sont retournées. Ces images donc de cette période passée en Amazonie. La majorité des films sont produits à Rio de Janeiro et à São Paulo. Et dans ce film, on a une production de Recife au Nord-Est qui est tournée dans le Nord.
en Amazonie, donc loin de ce centre industriel du cinéma brésilien. Et en effet, tout récemment, on a eu O Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho, qui est aussi un réalisateur de Recife. Et j'ai oublié de dire, et voilà, et Kleber Mendonça Filho, qui est mon voisin de quartier. Oui, et donc c'est super de voir se produire ces cinémas très variés, loin des grands centres. Et si ça peut arriver maintenant, c'est que ça vient du premier gouvernement de Lula, dans le début des années 2000, où il a mis en place une politique de décentralisation du cinéma. Et c'est grâce à ça qu'on peut voir toute cette diversité du cinéma aussi, d'auteurs produits loin de ces grands centres. Après 4 années de Bolsonaro, qui a essayé de défaire, de déconstruire la culture au Brésil, quand nous avons reçu l'Ours d'argent à Berlin, nous avons, donc contrairement à Bolsonaro qui enlevait les affiches des films qui gagnaient des prix, nous avons, après le prix, nous avons pu assister le film au canapé à côté de Lula en mangeant des pop-corn au palais du Planalto, le palais présidentiel. Il a adoré discuter avec nous, il remercie beaucoup, mais il dit que maintenant il doit nous quitter parce que sa fille a faim, il est 19h40 au Brésil, il faut qu'il lui donne à manger.
Merci.